Voilà, donc à l'Assemblée nationale, je siège à la délégation aux collectivités territoriales. Bon, je rembobine un tout petit peu parce que pour vous expliquer ce que c'est et surtout un peu peut-être casser vos illusions sur le sujet. Quand j'ai été élu député en 2017, j'ai choisi, on a 8 commissions permanentes, il faut qu'on en choisisse une. On ne peut siéger que dans une commission permanente à l'Assemblée nationale. Et j'avais demandé en tout cas de siéger à la commission des lois, parce que c'est la commission des lois qui est compétente en matière d'organisation des pouvoirs en France, c'est-à-dire de droit des collectivités territoriales. Donc elle est compétente en matière de justice, de police, d'immigration, enfin tous ces sujets qu'on connaît bien dans le débat politique national. Elle est aussi compétente en matière de droit des collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à l'époque à siéger à la commission des lois. Ce qui m'a été accordé, bien que assez atypique pour un député nouvellement élu, la configuration de 2017 a peut-être aidé à ce que je puisse y siéger. Donc j'ai choisi d'y rester là en 2022 parce que mon sujet finalement de compétence technique, c'est celui des collectivités territoriales. En 2017, l'Assemblée nationale a également créé sa délégation aux collectivités territoriales. C'était un acte politique qui répondait à deux choses. Donc, ça n'est pas une commission permanente. C'est une délégation qui finalement a été dotée de quelques moyens de travaux de l'Assemblée nationale, un secrétariat et un administrateur. C'est ce qui permet de faire un peu de travail de fond. Il en existe une pour l'égalité femmes-hommes et puis le droit des enfants, je crois. Enfin, il y a 3 ou 4 délégations qui existent comme ça, qui n'ont pas de prérogatives dans le processus législatif au fond, mais qui ont une forme d'autorité morale sur la thématique, on va dire ça comme ça, et qui sont dotés de quelques moyens de fonctionnement par l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'en 2017, cette délégation est créée? J'ai envie de dire pour 2 raisons. D'abord parce que quelques années avant, le Sénat avait créé sa propre délégation aux collectivités territoriales. Ce qui, au passage, est assez surprenant, puisque le Sénat devrait finalement avoir les collectivités territoriales, l'organisation des pouvoirs, en préoccupation transversale, et pas le cantonner à une délégation. Mais il faut dire que des élections sénatoriales approchent. Ce soir, je vais être un peu sans concession, vous me l'excuserez. Mais bon, c'est mon style. Il faut dire que des élections sénatoriales approchaient à l'époque où le Sénat a fait ce choix, et qu'il fallait donner une présidence à l'une ou l'autre personne, en l'occurrence Jean-Marie Bockel, à qui on avait confié, Gérard Larcher avait confié la présidence de la délégation collectivité territoriale. Le Sénat n'a pas fait un travail inintéressant en la matière, je crois qu'il faut le dire aussi, parce que c'est dans l'ADN du Sénat, finalement, d'être complètement infusé de ses préoccupations d'organisation des pouvoirs et d'organisation du territoire. À l'Assemblée nationale, il y avait donc ces 2 enjeux. Un, ne pas être marginalisé par rapport au Sénat, avoir aussi sa délégation aux collectivités territoriales. Et deuxièmement, un enjeu beaucoup plus politique en 2017, qui était celui d'une nouvelle majorité de La République En Marche. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça s'appelle autrement, je crois. Non mais voyez, en 5 ans ils ont déjà réussi à changer de nom, hein. Qui avait comme principale critique d'être considéré, notamment par les élus locaux, comme détaché des problématiques des collectivités, puisque le profil, à du moins le profil sur lequel La République En Marche communiquait concernant ses nouveaux députés, était celui d'élus et de députés issus de la société civile, ayant des parcours dans le privé, ne venant pas de la politique, ce qui, du coup, par effet de balancier, préoccupait finalement les élus locaux en disant « mais ce sont des gens qui ne nous connaissent pas ». Alors que, habituellement, le député, c'était un type qui avait suivi le ou la, hein, parlons en français académique, c'est-à-dire qui fait primer le masculin sur le féminin sans considération de genre. Le député avait un cursus honorum, il avait été conseiller municipal, maire, assez vite, parce que faut être un peu ambitieux, conseiller général ou conseiller régional, et puis est devenu député après, donc avait une forme de connaissance et de pratique des collectivités, ce que n'avaient pas les nouveaux députés de la majorité de 2017, et donc c'était une façon de contrebalancer ça. Donc cette délégation aux collectivités territoriales a été créée. Honnêtement, en 5 ans d'existence à l'Assemblée nationale, elle n'a pas produit beaucoup, grand-chose, quoi. Il en est à peu près de même sur sa recréation en 2022. Une fois que c'est là, c'est plus dur de le défaire. Donc elle était là, on a continué. Donc j'y siège. Je dois dire que je reçois toutes les semaines une revue de presse sur la thématique collectivité locale. Mais à part ça, l'apport législatif de la délégation collectivité territoriale est quand même quelque chose de relativement modeste. Ça permet de faire exister la préoccupation des collectivités territoriales au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, je vais être plus franc encore. J'ai tendance à penser avec le vécu que cela réduit la question, le débat sur l'organisation des pouvoirs en France, qui est normalement la prérogative de la Commission des lois, à la seule question des collectivités territoriales. Et en faisant ça, finalement, elle enferme la réflexion française dans un modèle qui est le modèle français. Alors que, finalement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait peut-être une réflexion plus large, qu'on reparte de ce que sont les pouvoirs publics, qu'on réfléchisse à leur organisation, sans être forcément cadenassé par la question des collectivités territoriales. Et par collectivité territoriale, entendre l'organisation à la française des collectivités territoriales. C'est assez franco-centré, cette délégation aux collectivités territoriales. Donc voilà, moi, un petit peu, cette délégation, c'est bien que ça existe, ça fait vivre le sujet. Est-ce que c'est un avantage pour l'avenir? J'en suis pas absolument certain. J'ai plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'est un outil de conservatisme qui criera en disant il faut plus de pouvoir au maire, il faut plus de pouvoir au président de département, il faut plus de pouvoir au président de région. Mais est-ce qu'aujourd'hui le sujet est celui-là? Est-ce qu'aujourd'hui le sujet c'est plus de pouvoir aux collectivités territoriales telles qu'elles existent? Est-ce que c'est autrement de pouvoir? Est-ce que c'est autrement de politique? Est-ce que c'est autrement d'organisation des pouvoirs, y compris centraux? Voilà, ça c'est un peu le questionnement qui est le mien aujourd'hui. Mais bon, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Donc on en vient à l'avenir de l'Alsace. Moi, je reste infusé par cette pensée qui était celle qui s'est construite autour des années 2010. La question de la collectivité alsacienne, on va pas refaire l'histoire ici, elle est ancienne, de Goetschy qui voulait s'opposer à la création des régions jusqu'à la réforme de 2015. On a beaucoup, beaucoup parlé de ça en Alsace. Je reste assez, personnellement, attaché à la vision qu'on avait en 2010-2013, qui était de dire dans une situation où la France n'est pas prête à bouger trop vite sur cette question de territorialisation des pouvoirs, de décentralisation, finalement maximisons ce que nous pouvons avoir au sein d'une collectivité à l'échelle de l'Alsace. Compétences des départements et compétences des régions au sein d'une même collectivité de taille alsacienne. Je suis assez allergique, je vais vous dire, à tous ces sujets qui consistent à dire est-ce que ça s'appelle une région, est-ce que ça s'appelle une collectivité à statut particulier, parce que j'ai l'impression, encore une fois, quand on parle de ça, que là on se fait plaisir ce soir, entre spécialistes de la question, que nous connaissons tous l'article 73 de la Constitution et la collectivité territoriale à statut particulier qui est détaillé en X alinéa, j'en sais rien, mais globalement, ni les Alsaciens ni les Français ne connaissent la Constitution. Ni les Alsaciens ni les Français ne comprennent ce que c'est qu'une collectivité à statut particulier. Donc, je pose le constat, j'ai tendance à penser qu'on n'a pas encore trouvé les bons mots pour décrire ce que nous voulons. Parce que, pour moi, dire qu'on veut une collectivité à statut particulier alsacienne, ça veut tout et rien dire. Dire aujourd'hui, comme je l'entends... Alors, entre nous, ça ne veut pas tout et rien dire, parce que nous, on y met globalement la même chose techniquement. Mais quand on va voir les Alsaciens dans leur ensemble, les kidam qu'on croise au supermarché, parce que maintenant c'est plus au marché, c'est au supermarché, on leur dit on veut une collectivité à statut particulier, ils disent oh, vous quoi. Hein. Mais ils comprennent pas ce qu'il y a derrière quand on n'est pas un spécialiste. Et du coup, je pense qu'on a fait un très mauvais choix, notamment en appelant le bidule là, qui est la fusion des deux conseils départementaux, en appelant ça collectivité européenne d'Alsace. Ça parle à certains, mais encore une fois, aller vendre collectivité européenne d'Alsace, CEA. Déjà, la moitié des maires alsaciens parlent de communauté européenne d'Alsace. Je vous fais pas une blague. La moitié des maires alsaciens vous parlent de communauté européenne d'Alsace. Donc, ça veut dire qu'on est encore loin de la compréhension des règles juridiques, parce que là, on, on se fait plaisir en étant des techniciens. Mais si on veut convaincre une majorité d'Alsaciens et qu'on veut convaincre au-delà de l'Alsace, il faut qu'on revienne à des concepts beaucoup plus simples, avec des mots beaucoup plus simples, compréhensibles, appropriables par tous.
Mais on peut peut-être l'expliquer, hein. Les Alsaciens ne sont pas des idiots non plus.
Si vous permettez, je vais au bout. Donc, je pense juste que quand on crée la collectivité européenne d'Alsace, on est dans une logique un peu bureaucratique. On est dans une logique qui consiste à nommer juridiquement des choses sans penser à la compréhension par le public. Je viendrai ensuite sur la vision que j'ai de l'organisation de la collectivité en Alsace. Et aujourd'hui, quand on dit on veut une région européenne d'Alsace, en fait, on recrée le même problème. Parce que qu'est-ce que nous renvoient de façon générale les Alsaciens ? L'accumulation des couches, ça suffit. On ne comprend pas qui fait quoi. Et quand on reprend les mêmes logiques, collectivité, ben ça perd parce que c'est ni un département ni une région. Région, ok, mais région, c'est quoi ? Ben, région, dans l'inconscient français, dans la lecture qu'en aura Paris, ben, c'est une région. C'est pas le cumul d'une région et d'un département. C'est une région. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, moi, comment est-ce que je vois les choses ? Encore une fois, de façon très claire, la priorité, c'est de construire un objet juridique qui cumule les compétences des départements et des régions. Quelques spécificités, mais on peut faire du violon sur le bilinguisme, sur le transfrontalier et sur les routes. Ça n'a rien de spécifique par rapport aux autres territoires. Je suis assez sans concession sur le sujet, mais avoir confié un schéma d'organisation transfrontalière à la collectivité européenne d'Alsace, c'est du violon. Concrètement, ça ne change pas grand-chose. Avoir confié une compétence sur le bilinguisme, c'est du violon. C'est une compétence dont les départements s'étaient déjà saisis, en quelque sorte, par le biais de la compétence sur la culture et sur les collèges. Alors, on peut l'appeler compétence bilinguisme. Hop, vroumnet, ça nous fait plaisir. Mais dans l'action publique, ça ne change rien. Dans l'action publique, dans les moyens juridiques de l'action publique. Donc ce qui a vraiment changé, c'est le fait qu'il n'y a plus de route nationale en Alsace. J'espère que la collectivité européenne d'Alsace arrivera dans les 6 prochaines années, et je dis dans les 6 prochaines parce que après j'ai pas trop de doutes, mais dans les 6 prochaines à gérer aussi bien que l'État les routes nationales qui nous ont été transférées. Vous ne semblez pas d'accord, mais je pense que vous aurez l'opportunité de le dire après.
Il faut faire un débat, oui.
Donc comment je le vois, un objet juridique qui permette de concentrer les compétences de ces deux strates de collectivité et autant que possible de nouvelles, pourquoi pas. Deux conditions que moi je pose. La première, c'est celle de faire de cette collectivité un espace de débat politique. Je suis assez insatisfait de la façon dont aujourd'hui on débat politique en Alsace. Je sais qu'un journaliste nous écoute. Les médias ne nous aident pas beaucoup. L'espace dans les DNA, parce qu'on est à Strasbourg, donc je dis les DNA, chez moi c'est l'Alsace, mais se réduit tous les jours davantage. Est-ce que c'est lié au fait que la presse locale souffre, que plus grand monde ne lit la presse locale, que c'est cher d'imprimer du papier, etc., etc. Tout ça, je l'entends. Enfin, à la fin, dans les pages politiques des DNA, il y a quand même plus beaucoup de débats politiques. Et quand on vient, comme aujourd'hui, de voter 2,1 milliards d'euros de budget public pour la collectivité européenne d'Alsace et que tout cela sera résumé demain dans la presse locale en un tiers de page, je pense qu'on a un problème en matière de débat politique. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, au sein de la collectivité européenne d'Alsace, on parle très peu politique. Très peu politique. Et j'entends tous les sujets autour du caractère citoyen, de la nécessité d'associer la société civile. On ne sortira pas d'une logique de démocratie représentative en France. Et pour que la société civile fonctionne bien, il faut que les institutions politiques fassent la politique. Et si on n'a pas de débat politique au sein des assemblées qui constituent les collectivités, ça ne sert à rien d'animer du débat politique dans la vie citoyenne, puisqu'il n'y a pas d'endroit de pénétration. Donc il faut absolument qu'on sache se saisir, nous, conseillers d'Alsace aujourd'hui, de questions politiques, débattre de politique. Et je pense qu'en l'état actuel de la construction de la collectivité européenne d'Alsace, la nécessité de construire un projet politique pour l'Alsace, elle n'est pas en dehors de la collectivité, elle est dans la collectivité. Et une fois qu'on aura construit une vision dans la collectivité, alors on pourra aller à l'extérieur pour débattre avec les concitoyens. Et puis le second élément que j'ai envie de poser, c'est qu'il faut que ça marche. Parce qu'on est des Alsaciens, nous, tapip. Les grands discours, c'est bien, mais ce qui a toujours caractérisé l'action publique alsacienne, c'est l'efficacité sur le terrain, la concrétisation, l'organisation de la décision publique entre les politiques et les fonctionnaires, de Pflimlin à Zeller, à Richert avec, quand il était président du Conseil régional d'Alsace, on avait une organisation efficace et fonctionnelle. Et force est de constater que le paysage administratif, pour le coup, parce que là c'est administratif, alsacien, pour le moment, n'est pas en état de marche. Parce que la région Grand Est s'est rendue inefficace dans les compétences régionales, parce que la collectivité européenne d'Alsace n'a pas encore digéré la fonction de la fusion de ses propres compétences. Et moi, j'entends qu'on se fait plaisir en se disant on veut de nouvelles compétences, on en veut toujours plus. Je suis d'accord. Mais il faut d'abord qu'on fasse fonctionner ce qu'on a. Et c'est par le fait qu'on fasse fonctionner ce qu'on a qu'on démontrera notre capacité à prendre toujours davantage. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la situation un peu du géant au pied d'argile, où on dit on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, et où tous les gens qui seraient en mesure de nous transférer commencent à gratter, regardent, et disent « Ouais, mais attendez, on sent que vous êtes fragile. » C'est pas grave. C'est normal. La collectivité, elle a un an et demi. Donc en un an et demi, 6500 agents, des centaines de politiques, on n'a pas pu tout mettre d'équerre. Mais il faut d'abord qu'on se concentre pour mettre ça d'équerre, pour ensuite accueillir de nouvelles compétences. Ça ne veut pas dire ne pas parler des nouvelles compétences, ça ne veut pas dire ne pas parler de la suite, mais ça veut dire mettre prioritairement notre attention sur le fait de rendre notre outil efficace. Je le dis de façon très, très dépassionnée, parce que j'y crois. Parce que je pense que c'est nécessaire et parce que je pense que c'est ce qui caractérisera une action publique alsacienne forte et efficace et que moi je crois au concret. Voilà, j'avais encore autre chose à dire, mais ça m'est sorti de la tête, ça me reviendra sûrement dans l'échange que nous allons avoir.
Merci monsieur. Vous nous direz peut-être où en sont les débats, les discussions au niveau national. Allez-y.
Ouais, alors, bon, moi aujourd'hui je reste dubitatif. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron et son gouvernement ont envoyé le signal d'une loi sur l'évolution des collectivités territoriales qui viendrait en 2024. Moi, je trouve que le calendrier est bon, et en la matière, j'ai pas d'état d'âme sur les étiquettes politiques en matière d'organisation des collectivités territoriales. Je crois que c'est des choses qui doivent dépasser les questions d'étiquettes partisanes. Donc j'étais plutôt favorable. En plus, c'est un calendrier qui est bon. Ça laisse suffisamment de temps avant la mise en application pour le respecter. Et de toute façon, la mise en application, ça ne sera pas avant 2028, pour des raisons... évidente, qui est que les mandats arrivent à échéance en 2028. En plus, en réponse à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait compatible avec un agenda de montée en puissance de la collectivité européenne d'Alsace sur ses propres compétences. Je suis un peu plus dubitatif depuis 2 semaines, parce que j'ai lu je ne l'ai pas lu dans la presse locale, mais dans la presse nationale, de nouvelles annonces du gouvernement qui mêlent cette promesse d'une loi sur les collectivités territoriales, donc sur les pouvoirs locaux en 2024, à une réforme institutionnelle d'envergure. Et moi, je ne veux pas me retrouver dans la situation où je dois arbitrer entre le découpage territorial et le déséquilibre des pouvoirs centraux. Parce qu'on restera dans une logique de république, on ne va pas sortir de ça. Après, je fais de la réelle politique. Hein. On peut ensuite débattre sur le plan intellectuel de savoir si on voudrait un autre modèle que la République. Aujourd'hui, c'est la République. Elle a des défauts. Elle a aussi beaucoup d'avantages. On restera dans cette logique-là. Mais si on est dans un problème de déséquilibre trop manifeste entre les pouvoirs centraux, ça va devenir délicat d'arbitrer entre l'intérêt du découpage territorial et un déséquilibre des pouvoirs centraux, d'une cinquième qui n'a pas forcément besoin de renforcer encore davantage le pouvoir gouvernemental. Donc, quand j'entends dire qu'il y a des sujets sur l'organisation de la justice, il y a des sujets sur la place du Parlement, il y a des sujets sur la capacité née d'une configuration inédite de l'Assemblée nationale. La nécessité de redonner au gouvernement la capacité à agir. Ça veut dire renforcer le pouvoir exécutif. Hein. Et en même temps, l'organisation du bloc de compétences régionales. Entendez, quand je dis bloc de compétences régionales, entendez département plus région. Hein. Ça fait 4 thématiques dans le même texte. Ça veut dire que ce sera un peu plus compliqué de se positionner que si on n'avait qu'un texte sur l'organisation des pouvoirs décentralisés. Parce que, franchement, moi je suis alsacien et j'ai construit mon engagement politique sur la nécessité d'avoir une collectivité à l'échelle de l'Alsace. Ça y est, ça m'est revenu réel. Dites-moi réel si j'oublie. À l'échelle de l'Alsace. Mais je ne suis pas prêt à le mettre en balance avec une désorganisation complète de l'équilibre de nos pouvoirs qui pourrait être déstabilisante de façon plus large. Et enfin, du coup, c'est ce sur quoi je voulais conclure tout à l'heure, vous partagez une conviction qui est pour moi forte. C'est que les institutions, si elles veulent être fortes, elles ne peuvent que s'inscrire dans des réalités, et notamment dans des réalités territoriales. Ça a été le cas de la France. Aujourd'hui, la France, elle est forte parce que les politiques ont construit un outil qui s'appelle l'État, qui est une vraie réalité. L'État est, dans le quotidien de nos administrés, une vraie réalité. Ce qui fait que la nation française s'est greffée sur cet appareil d'État et existe par la préexistence de l'État. Et je pense qu'en Alsace, le débat est le même, d'ailleurs on le voit, si la question du Grand Est est si horripilante pour les Alsaciens, c'est qu'il y a bien une réalité alsacienne. Et ce à quoi on doit faire attention, quel que soit le pas de temps qui nous sépare d'une nouvelle organisation territoriale en France, et particulièrement en Alsace, c'est de conserver l'Alsace comme une réalité. Il faut absolument que nous fassions tous l'effort de conserver l'Alsace comme une réalité, pas seulement comme une réalité juridique, pas seulement comme une réalité administrative, mais bien comme une réalité socio-économique. Et si on a la réalité socio-économique, on gagnera la bataille de l'organisation des pouvoirs. J'ai aucun doute là-dessus. J'espère que ça prendra le moins de temps possible. Et comme dit, le cap de 2028 me semble être un bon cap. J'espère que ça ne prendra pas plus de temps. Mais l'essentiel, c'est de conserver la question de la réalité. La réalité linguistique en est une aussi. Même si la bataille de ce point de vue-là est très 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 difficile. Et c'est une raison pour laquelle il faut absolument qu'on ne se limite pas à la réalité linguistique pour défendre le fait alsacien, parce que le fait alsacien est bien plus large que la question linguistique. Donc il ne faut pas la monofocale sur la langue, parce que si on se monofocalise sur la question de la langue, encore une fois, hein, ça ne dévalorise aucun combat. Hein. Mais si on se focalise uniquement là-dessus, on risque à terme de progressivement effacer les autres réalités alsaciennes et perdre progressivement des arguments. Voilà.